Cadabra.
Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
On s'assied autour d'une table aujourd'hui et on vous raconte l'histoire d'un fait anthropologique et social élevé au rang d'art, la gastronomie. Des festins du Moyen-Âge aux émissions télévisées grand public, la gastronomie s'est inventée au fil de mode, de révolution et d'ouverture au monde pour le plaisir d'un public de plus en plus vaste, mais s'est-elle pour autant démocratisée? On enfile notre toque et on prend le temps de goûter à la gastronomie à toutes les sauces. Gastronomie, tous à table, c'est le menu gourmet qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous conseiller dans le vaste menu offert par cette histoire des arts de la table, nous sommes accompagnés de deux gastronomes patentés. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, scénariste, auteur notamment avec Aurélia Horita de Comme un chef, paru aux éditions Casterman, et du livre d'entretien avec le chef Michel Guérard, intitulé Michel Guérard, mémoire de la cuisine française, paru aux éditions Albin Michel. Nous sommes également en ligne avec Philippe Mézy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dont L'alimentation en Europe à l'époque moderne paru chez Armand Collin ou encore Banquet, gastronomie et politique dans les villes de province aux éditions Ferré. Mais avant de passer à table, on ouvre le bal et on se met en appétit avec un menu, on va dire, gourmand, croquant et plein d'audace.
Ah, je vous attendais. Allez, en place. On va commencer de suite le bazar.
C'est quoi ça?
Ça, j'ai inventé moi-même, vieux. C'est comme des pommes, mais ça pousse dans la terre. J'ai pas encore trouvé le nom. Les oies. C'est bon parce que c'est gras. Le troupeau de moutons, ça donne une fée de loup. L'omelette des titans, avec 8 douzaines de fées. Et avant de passer à la suite, l'éléphant aux olives.
Il a tout mangé?
Tout! Tout! Il ne me reste rien dans ma cuisine! Pas ça! Je dois fermer la boutique!
On a fait un petit détour par Astérix, les 12 travaux d'Astérix, Philippe Mézy. On peut remonter dans l'histoire de la cuisine à l'Antiquité. Est-ce que, alors la gastronomie est un concept qui a été peut-être plus théorisé au 19e siècle, mais est-ce qu'on peut parler d'une théorisation de la cuisine dès la Haute Antiquité?
On peut retrouver, je dirais, dès les débuts de l'écriture, hein, finalement, cette recherche du plaisir au-delà d'un besoin vital, hein, qui est la gastronomie, dans un sens assez large. Et je dirais que même durant la période mésopotamienne, hein, en Mésopotamie, on peut déjà, sur les tablettes, voir quelques premières recettes qui montrent une volonté de recherche du plaisir dans l'alimentation. C'est quelque chose qui est très ancien, oui.
Est-ce qu'on a une idée de ce que mangeaient ces personnes-là, que nous disent ces premiers textes-là, et à quoi ressemblaient les plats qui étaient consommés à cette époque?
Alors, savoir à quoi ressemblaient les plats, c'est quelque chose de très difficile, parce que sur les premières mentions qu'on a, c'est simplement des mentions d'ingrédients ou de noms de plats, comme des tourtes aux petits oiseaux qu'on retrouve en Mésopotamie au 7e siècle sur les tablettes. Mais si on avance un petit peu dans le temps, on va voir apparaître au 5e siècle, au 4e siècle, à Athènes par exemple, des premiers traités culinaires, où là on va avoir un discours sur le raffinement culinaire qui commence à apparaître et qu'on va retrouver aussi à Rome un petit peu plus tard.
Alors on va faire un bond dans le temps vraiment arbitraire, mais on n'a qu'une heure devant nous malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de l'histoire de la cuisine en entier. On va arriver assez rapidement au Moyen-Âge. Philippe Mézy, est-ce que au Moyen-Âge on trouve les prémices des arts de la table?
Alors le Moyen-Âge est vraiment une période qu'on présente très souvent comme une période un petit peu de recul de l'art culinaire. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes. On a une table de qualité et finalement aussi, notamment autour des rois, dans les cours, on va retrouver un raffinement de l'art culinaire, mais beaucoup moins connu que pour les périodes précédentes et qui vont suivre, parce que tout simplement, il n'y a pas de traité culinaire à cette époque-là. Et donc, ça explique qu'on ait longtemps perçu le Moyen-Âge comme une période où finalement il ne se passait pas grand-chose. Il y a toujours une cuisine qui passe beaucoup par la dimension visuelle, et la recherche du plaisir à table passe énormément par la dimension visuelle, par l'abondance, qui sont des critères très importants, la recherche du gras, etc., comme on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait. Il y a cette recherche-là.
Benoît Peters, ça c'est une constante dans l'histoire de la gastronomie. On étale son pouvoir, son opulence par la table et par la mise en scène finalement de tous ces plats.
Oui, je crois qu'il faut distinguer quand même entre tous les rites de l'alimentation, de la cuisine, qui sont fondamentaux dans les processus, on peut dire même d'hominisation. Pensons au grand livre de Lévi-Strauss, les mythologiques, c'est le cru et le cuit, l'origine des manières de table, du miel au centre, toutes ces choses autour desquelles des communautés se créent. Et puis la cuisine d'apparat, qui prendra le nom de gastronomie et qui prendra ce nom parce qu'elle s'accompagnera d'un discours. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le fait de se nourrir, d'être ensemble, de partager ce qu'on a chassé ou cueilli, et d'un autre côté, le fait de présenter visuellement, mais de présenter par les mots. Et au fond, y aurait-il une gastronomie, une culture gastronomique, si on ne passait pas par l'écriture?
Cette théorisation écrite, Philippe Mézy, elle est présente au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, avec des traités culinaires comme le viandier d'un certain Guillaume Tirel dit Taïwan. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces traités culinaires-là qui circulent un petit peu en Europe?
Dans ces traités de la fin du Moyen-Âge, on va retrouver un discours culinaire qui rend compte de ce qu'on sert aux tables princières essentiellement. Donc c'est une cuisine de cette fin du Moyen-Âge qui est très très marquée par la présence d'épices exotiques qui sont extrêmement valorisées, et on est bien là aussi dans le discours sur le lointain, on est là aussi dans le discours sur le pouvoir, la capacité à pouvoir obtenir du gingembre, du cumin, toutes ces épices venues d'Orient, et tout cet imaginaire de l'Orient est très présent dans ces livres de cuisine de la fin du Moyen-Âge.
Oui, parce que là, on perçoit directement sur les tables du Moyen-Âge, du moins sur les tables des puissants, les retours de croisades avec des ingrédients qui n'existaient pas jusqu'alors. Sous nos latitudes, l'abricot, l'échalote, ce genre de condiments, ce genre de fruits, ce genre de légumes.
Oui, on va retrouver ces produits venus de loin. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le sucre. Le sucre de la canne à sucre aussi va beaucoup marquer cette cuisine de la fin du Moyen-Âge. Le sucre alors est utilisé comme un condiment, comme une épice, et c'est vraiment quelque chose de très important.
Et Philippe Mézy, est-ce que au tournant de la Renaissance va s'opérer finalement une première révolution gastronomique, en tout cas va s'opérer un changement de perspective autour de la table, et est-ce que voilà, il y a d'authentiques nouvelles pratiques qui surgissent, d'authentiques nouveaux goûts, et si oui, lesquels?
On est vraiment avec la Renaissance dans une première phase d'intellectualisation finalement de la cuisine, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce discours-là, qu'on a beaucoup attribué, notamment pour la France, à une influence italienne, qui est certaine à certains égards. C'est tout d'abord les rituels autour de la table. Manger est une chose, mais il y a une codification avec l'apparition des traités de civilité qui se développent. On peut penser à Erasme en particulier. Donc on a tout un art de se tenir à table, de se comporter à table qui commence à apparaître et qui ouvre la voie finalement à une valorisation de la nourriture. Et puis là aussi on a des influences sur la valorisation des fruits, la valorisation des légumes. L'artichaut par exemple va devenir un mets très prisé qu'on va retrouver dans beaucoup de représentations picturales comme un des symboles finalement de la recherche du plaisir alimentaire.
J'ai lu en préparant cette émission qu'à la Renaissance, les goûts évoluaient, qu'on allait davantage chercher le goût des aliments pour ce qu'ils étaient, et non plus des goûts très épicés comme c'était le cas notamment au Moyen-Âge. Est-ce que c'est vrai, Philippe Mézy, qu'on a un changement du côté des palais, de tous les palais, enfin, le palais, le grand palais et puis le palais de la bouche?
Alors, les changements, souvent, dans ces phénomènes-là, se font avec lenteur et très progressivement. On reste encore à la Renaissance, très imprégné des épices exotiques dans la haute cuisine. Mais en effet, on a une valorisation progressive qui s'opère et du naturel, notamment parce que la nature, et on le retrouve sous la plume de poètes comme Ronsard, cette valorisation de la nature va permettre à des produits comme les champignons, par exemple, de prendre place dans la gastronomie, qu'on a des changements, mais qui s'opèrent assez lentement et qui surtout vont se manifester au milieu du XVIIe siècle de manière beaucoup plus nette, où là, véritablement, on considère que dans les traités culinaires, on a vraiment un changement très important qui s'opère.
Benoît Peters.
Il est amusant de noter que très régulièrement, de siècle en siècle, parfois à l'intérieur même d'un siècle, on passe de la valorisation d'une cuisine d'apparat qui va trouver dans l'architecture, dans les arts décoratifs, son horizon qui privilégie le visuel, le spectaculaire, on pourrait dire la théâtralité de la cuisine, et puis des retours réguliers au naturel, c'est-à-dire moins de pâtes, moins de sauce, moins de cuisson. Et ce mouvement de balancier est extrêmement caractéristique de la cuisine française jusqu'à aujourd'hui, où on a de temps en temps, alors qu'on a beaucoup dépouillé la cuisine de ses artifices, on a de temps en temps des gens qui disent « Attention, n'oublions pas la grande tradition française des pâtés en croûte, des sauces, des mets dressés de façon complexe. » Et c'est un jeu de balancier et peut-être qu'effectivement, une certaine justesse dans l'invention culinaire se tient régulièrement dans le fait de corriger d'un côté ou de l'autre. La cuisine trop dépouillée, trop ascétique, qui serait une menace peut-être récente, et de l'autre côté, une cuisine qui est plus pour l'œil que pour le goût, finalement, et qui ne respecte pas suffisamment le produit quand on a la chance de l'avoir dans sa fraîcheur et sa perfection. Car il ne faut pas oublier que l'histoire de la cuisine, c'est aussi l'histoire des techniques de conservation.
Bien sûr, Philippe Mézy, vous souhaitiez réagir, et je souhaite en tout cas compléter avec une petite question. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi à la même époque apparaît dans l'art, dans les arts visuels, les natures mortes. Alors bon, ça commence vraiment, la plus grande nature morte, en tout cas celle qui impressionne le plus les peintres de leur temps, c'est le Caravage. Cette corbeille de fruits avec des fruits un petit peu gâtés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le paysage visuel des cours des puissants apparaissent ces natures mortes. Est-ce que ça aussi, c'est finalement l'ancrage de la nourriture dans notre imaginaire qui se manifeste là aussi?
Alors, les natures mortes montrent finalement aussi, à travers leur apparition, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ces phénomènes de rupture et de réaction finalement par rapport à l'ancien. Et ces natures mortes, elles montrent effectivement une recherche du naturel. Elles ne témoignent pas forcément toujours d'un changement au niveau des pratiques alimentaires. Pour preuve, on va retrouver dans les natures mortes espagnoles du XVIIe siècle des tomates qui sont représentées. Elles sont simplement représentées pour leur aspect uniquement visuel. Elles ne sont pas consommées encore à ce moment-là, mais leur belle couleur rouge, finalement, les rend attrayantes. Donc, ça témoigne, effectivement, ces natures mortes, et la peinture témoigne des changements qui sont à l'œuvre.
Ce qu'on peut dire aussi, Philippe Mézy, et il faudra le dire tout au long de l'émission, c'est que ce fait culinaire-là, ce fait gastronomique-là, il est toujours le fait des puissants, le fait des gens riches, et que les paysans, ou en tout cas le peuple, lui, n'a jamais accès à cette abondance de mets-là.
Il est très important, en effet, de le rappeler. Mais c'est ce qui donne aussi la valeur, finalement, à la gastronomie. C'est qu'elle s'inscrit pendant de très nombreux siècles dans un arrière-plan qui est la culture de la faim. Une grande partie de la population, elle, est obligée de se nourrir par nécessité avec ce qu'elle a à disposition et parfois très peu. Donc l'abondance, le raffinement des mets, le discours sur la nourriture, effectivement, reflète une puissance avec cet arrière-plan de difficultés pour une large partie de la population.
On n'en aura jamais fini avec la Renaissance, mais on va continuer d'avancer dans notre émission et on va aborder les grands siècles et le grand siècle français.
Où sont les poulards? J'ai faim!
Pardon, vous allez prendre qui?
Jacquard, le gueux! Ah, où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés?
France Culture.
Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
Eureka.
Vous avez encore faim? Ah, parce que vous êtes goinfré ?
Antoine Beauchamp.
Les visiteurs, évidemment. On en arrive à la fin de la Renaissance et au XVIIe siècle. Benoît Peters, quand on pense à l'histoire de la gastronomie, on pense au siècle et au règne de Louis XIV. Alors, est-ce que ce règne-là a vraiment marqué l'assise de la France à l'échelle européenne en matière de cuisine, en matière de goût culinaire, en matière de création gastronomique ?
Je parlais à l'instant de la cuisine hantée par le théâtre et par l'architecture, donc évidemment, avec Vaux-le-Vicomte, avec Versailles, avec la figure de Vatel, on est en plein là-dedans. Il s'agit d'en jeter plein la vue. On ne sait pas si les plats étaient toujours chauds quand ils arrivaient à table, s'ils étaient toujours délicieux et parfaits, mais en tout cas, ils étaient dans la surabondance et il y avait ces tables où on ne mangeait pas de tout, suivant la place qu'on avait à table, hein, suivant le rang qu'on avait. Je crois qu'il y avait des aliments que certains ne faisaient qu'entrevoir et ne goûtaient pas. Donc, l'histoire de Vatel, elle est extrêmement intéressante, d'abord parce que c'est peut-être la première immense figure mythologique de la cuisine française, celle qu'on... Après, on aura Carême, on aura Escoffier, on aura Bocuse, mais je veux dire, vraiment, Vatel, ce rapport d'un intendant avec les puissants, avec le roi, bon, c'est une chose extraordinaire, mais il faut évidemment se souvenir que Vatel n'est pas un cuisinier au sens où nous l'entendons, mais plutôt un maître de cérémonie. Et le suicide de Vatel n'est pas lié à une sauce manquée, mais à des produits qui n'arrivent pas. Donc c'est une humiliation sociale, avec bon, le film assez mythique, avec Depardieu qui campe un Vatel parfait. On a là ce sentiment de quelqu'un qui peut dialoguer d'égal à égal avec les puissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup plus tard avec Talleyrand et le congrès de Vienne. Ne m'envoyez pas de traité, envoyez-moi les cuisiniers français, nous impressionnerons l'Europe entière. Voilà, la diplomatie par la cuisine, le pouvoir par la cuisine, le temps passé à table, voilà, ce sont des choses évidemment qui comptent presque autant que se conserver. Hein. Je crois que ça, il faut vraiment le voir.
Philippe Mézy, sur ce règne de Louis XIV, sur cette figure mythologique, légendaire de Vatel, et sur cette abondance à nouveau de produits, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est tout le travail, Benoît Peters l'évoquait tout à l'heure, de conservation, d'approvisionnement, les poissons de Vatel n'arrivent pas, c'est ce qui cause sa mort, son suicide. Expliquez-nous un petit peu, voilà, comment, selon quel réseau ça fonctionnait, cette alimentation des cours et quelle importance cruciale ça avait.
Oui, pouvoir s'approvisionner pour les puissants et pour Louis XIV en particulier, c'est pouvoir finalement mettre en évidence une forme de domination sur la nature. Et pour Vatel, effectivement, c'est la marée qui n'arrive pas, c'est les poissons venus de Dieppe, le poisson frais qui n'arrive pas à temps, qui est en retard et qui pose tant de problèmes. Donc ces circuits d'approvisionnement pour les puissants, la capacité à avoir à sa table du poisson frais ou bien d'avoir des légumes en primeur, et on connaît très bien les petits pois tant appréciés de Louis XIV à sa table. Il s'agit d'avoir ce que les autres n'ont pas, et donc on a des réseaux commerciaux qui sont mis en place, des réseaux d'approvisionnement avec voilà des transports rapides pour l'époque, avec des charrettes qui vont transporter le poisson frais ou même les huîtres jusqu'à Versailles.
Et bien manger à l'époque, c'est manger beaucoup. J'ai sous les yeux une citation de la princesse Palatine qui témoigne d'un repas auquel elle a assisté en compagnie de Louis XIV, elle dit « J'ai vu le roi manger, et cela très souvent, quatre assiettes de différentes soupes, un faisan tout entier, une perdrix, une grande assiette pleine de salade, du mouton coupé dans son jus avec de l'ail, deux bons morceaux de jambon, une assiette pleine de pâtisseries et des fruits et des confitures. » Benoît Peters, j'ai la nausée en lisant cette citation. Est-ce que vraiment ces personnes-là avaient des appétits démesurés par rapport aux nôtres ?
Ça devait être aussi un spectacle, une démonstration de puissance. J'ai encore entendu parler, il y a un certain nombre d'années, un éditeur parlait du grand auteur italien Ugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese, et qui était impressionné parce qu'après son dessert, il avait commandé un rognon de veau. Bon, et donc, c'était presque le sentiment du grand auteur. C'est une mythologie qu'on a aussi pour Balzac, pour Dumas, l'énorme mangeur. Il ne faut pas s'imaginer que tous les gens autour de la table mangeaient autant, je pense qu'il n'y aurait pas résisté et les quantités n'étaient pas suffisantes.
Philippe Mézy, sur cet appétit qui est la traduction du pouvoir.
Alors, il traduit en effet le pouvoir, mais c'est aussi donner à voir, on l'a dit tout à l'heure, c'est la mise en scène, et donner aussi, on est dans la prodigalité. Les puissants aussi doivent distribuer à ceux qui sont autour de la table, hein, on est dans des logiques de clientèle, mais il faut tout de même aussi bien avoir à l'esprit que, à l'époque de Louis XIV, on est dans le cadre d'un service à la française, qui est pratiqué dans toutes les cours européennes, qui consiste finalement à mettre à disposition sur la table une grande diversité de mets, et chacun, pour que chacun finalement ait la possibilité de choisir ce qu'il veut. C'est très imprégné des théories médicales de l'époque, cette idée de laisser une liberté de choix. Donc une grande abondance effectivement de mets sont proposés, mais chaque convive a ainsi la liberté de composer à son gré finalement son repas.
Benoît Peters, alors à la cour de Versailles, le buffet ressemblait plus à un buffet à volonté qu'on
peut... On est dans un banquet à la chinoise, même si on parle de service à la française. Et en fait, l'ordonnancement du repas, comme nous le connaissons, et qui nous semble immémorial, c'est le service à la russe, c'est-à-dire c'est le service successif. Et c'est une révolution, évidemment, dans la façon d'organiser le repas, probablement aussi dans le rapport du chaud et du froid, des entrées, des entremets, le poisson avant la viande, enfin, tout cet ordonnancement qui nous paraît appartenir à une histoire très très ancienne, va être une invention et par certains côtés une invention d'importation. Donc ces repas, quand on lit les menus, on est troublé, mais très probablement, enfin, moi il m'est arrivé de participer comme ça à des grandes invitations solennelles en Chine, où il y a 25 plats, mais certains on ne fait qu'y goûter d'ailleurs avec l'enthousiasme des Chinois qui sont très heureux de vous voir manger quelque chose que vous ne mangeriez pas si on vous le nommait. Donc ça devait être un peu de cet ordre-là, 20-25 choses, certaines vous piqueriez, d'autres vous n'y touchiez même pas.
À la fois de l'ordre du spectacle et à la fois du partage de la cuisine, on continue d'avancer dans cette histoire de la gastronomie, Philippe Mézy, avec un tournant majeur, c'est la Révolution française. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence directe sur la naissance de la gastronomie, ou en tout cas sur la dissémination des cuisiniers de la haute noblesse qui, bien sûr, ayant perdu leur tête, ne pouvaient plus alimenter et employer ces cuisiniers. Qu'est-ce que vont devenir ces cuisiniers-là?
Alors on a, avec la Révolution française, une redistribution un petit peu des cartes dans le paysage de la gastronomie, parce que la gastronomie, c'est effectivement des acteurs. On a parlé de Vatel, des maîtres d'hôtel, mais ce sont aussi des lieux. Et la gastronomie s'était beaucoup construite au XVIIIe siècle dans l'espace privé, des hôtels particuliers, des châteaux de la noblesse et de l'aristocratie. Avec la Révolution française, en effet, les choses changent, bien évidemment. Et donc, on va voir, mais ça précède déjà la Révolution française, hein, déjà dans les années 1780, voir apparaître le restaurant. Voilà, donc un lieu qui sera peu à peu dédié à la gastronomie. On a, avant même la Révolution, des établissements importants comme celui de Beauvilliers, qu'on va retrouver dans des quartiers comme le Palais Royal ou au Faubourg Saint-Honoré, qui vont proposer une cuisine raffinée, qui va toucher après la Révolution et durant la Révolution déjà un public plus large que l'aristocratie, les élites urbaines, la bourgeoisie, les députés qui vont venir à Paris au moment de la Révolution vont goûter à cette cuisine-là. Et finalement, on a un petit peu un déplacement de la gastronomie de l'espace privé ou semi-public de l'hôtel particulier du château vers l'espace du restaurant.
Benoît Peters.
Et c'est à la fois un moment de première démocratisation, même si c'est une démocratisation pour quand même une population très, très privilégiée, et c'est aussi un moment de comparaison. Parce que quand vous mangiez à la table d'un grand seigneur, quand vous étiez en région, bon, vous n'aviez pas la possibilité d'aller goûter 10 cuisines d'apparat différentes, alors que là, au Palais Royal ou dans d'autres quartiers de Paris, on peut faire et défaire les réputations. Et donc ça, c'est probablement quelque chose qui va exciter le discours. Parce que discourir, c'est comparer, c'est valoriser un tel plus qu'un autre, parler d'une spécialité particulièrement réussie d'un côté. Et donc là, on va voir apparaître le début d'une forme de critique gastronomique. On se valorise en parlant de tel ou tel lieu, en découvrant tel ou tel lieu. Et ça, c'est une culture qui a duré jusqu'à nos jours. On sait très bien que beaucoup de gens qui ne fréquentent pas les meilleures tables aiment, par exemple, lire des articles, lire des guides, des descriptions et rêver autour de la cuisine. Donc les mots de Brillat-Savarin, par exemple, vont être des mots qui feront rêver ceux qui peut-être n'atteindront jamais ce nirvana du grand restaurant désiré.
Ce qui est intéressant, donc, c'est que le terme gastronomie apparaît vraiment au XIXe siècle. Vous parlez de Antelme, Brillat-Savarin, Parlons-en de cette figure aussi archétypale, ou en tout cas tutélaire en matière de gastronomie en France. Qu'est-ce qu'il va écrire, qui va lancer finalement tout ce travail de théorisation et de discours autour de la gastronomie?
La physiologie du goût est un peu le résumé de toute une vie de gourmand, de gourmet, de connaisseur. Alors c'est un livre comme on les écrit à l'époque, c'est-à-dire plein de récits, d'anecdotes, de digressions, de réflexions. Et c'est un livre qui reste toujours de lecture très agréable. Roland Barthes, qui était un fin gastronome, a écrit une magnifique préface à Brillat-Savarin. Et même si beaucoup des choses dont il parle ont disparu, ça reste de lecture très très plaisante, tout comme une autre grande lecture gastronomique, qui est ce livre un peu fou, Le Grand Dictionnaire de Cuisine d'Alexandre Dumas. Bien sûr, il ne s'agit pas de préparer des pâtes d'ours ou des pâtes d'éléphant, dont Dumas disait d'ailleurs qu'une des pâtes, je ne sais plus, était meilleure que l'autre, mais nous le lisons comme un roman de la cuisine et de l'aventure culinaire, de ce qui a conduit à chaque plat, de la chasse, de la découverte de tel ou tel mets exotique. Il est probable d'ailleurs que des gens comme Dumas ou même Brillat-Savarin n'avaient pas goûté certaines des choses dont il parlait.
Philippe Mézy.
Oui, on a vraiment un passage finalement qui s'opère dans cette première moitié du 19e siècle, hein, avec Brillat-Savarin, qui est porté aussi par une autre figure emblématique du discours gastronomique qui naît à ce moment-là, qui est Grimaud de la Reynière, qui rédige un almanach des gourmands dans les premières années du 19e siècle. Et il est vraiment intéressant parce que c'est un passeur. C'est lui un petit peu qui fait la transition entre la figure de l'amateur aristocrate du 18e siècle, de bon goût, capable de discerner la qualité des aliments, et Brillat-Savarin. Et son ouvrage, l'almanach des gourmands, est quelque chose qui est très pratique, hein, c'est ce qu'on disait, qui permet finalement d'avoir un discours sur la nourriture, mais aussi d'indiquer où on peut, à Paris, chez quel fournisseur, chez quel pâtissier, chez quel traiteur, chez quel restaurateur, on peut trouver tel ou tel plat. Donc on est à la fois dans le discours de l'amateur éclairé, version 18e siècle et aristocratique, et en même temps déjà dans le guide gastronomique. Mmh.
Benoît Peters, ce qui est intéressant, c'est que le 19e, c'est aussi le siècle où apparaît le tourisme. Alors, c'est pas encore un tourisme de masse, mais là aussi, ça va grandement contribuer au succès de la gastronomie française et de la gastronomie en général. Mais voilà, tous ces guides-là vont accompagner cette ascension fulgurante des cuisines françaises.
Mais quand même, le grand tourisme et le tourisme culinaire, c'est quand même l'automobile qui l'amène. Et le guide Michelin naît avec l'automobile. Au départ, c'est un guide qui va être fait pour les chauffeurs et puis qui deviendra pour les propriétaires. Je pense que les découvertes d'auberges au 19e siècle restaient quelque chose quand même d'un peu plus, comment dire, amateur. On n'avait pas la possibilité de dire « Ah, j'ai entendu parler de telle auberge à Chambéry, je vais vite y aller parce que ça a bonne réputation. » Je crois que c'est quand même un phénomène qui commence plutôt avec la voiture. Et d'ailleurs, bon, on verra, c'est très frappant, la distribution des premiers grands restaurants français, des premiers étoilés, le long des grandes routes. Hein. Peut-être aussi parce que ceux qui faisaient les guides ne s'aventuraient pas par les chemins.
Philippe Mézy, une réaction?
Oui, les guides, en effet, à l'époque, il existe déjà des guides de voyage, mais en effet, ils ne parlent pas des tables. Souvent, les tables des auberges sont plutôt critiquées, d'ailleurs. En revanche, il y a quelque chose qui est très important pour la gastronomie française, c'est qu'ils vont faire l'éloge d'un certain nombre de produits associés à un lieu. Les voyageurs vont évoquer les jambons à Bayonne, vont évoquer les nougats à Montélimar, etc. Donc, ils ne parlent pas de cuisine à proprement parler, mais ils valorisent fortement, déjà, dans la première moitié du 19e siècle, les produits qui sont, dans la cuisine française, quelque chose qui est mis en avant et qui est très important.
Benoît Peters, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de produits. Jusqu'à présent, on a parlé de cuisine, on a parlé de plats cuisinés. À nouveau, est-ce qu'au 19e siècle, ces produits, justement, réacquièrent une importance comme au moment de la Renaissance? Dites-nous tout un petit peu sur ce qu'on pouvait trouver sur ces tables des palaces ou des restaurants au 19e siècle en France.
Bon, on va avoir, alors, mais là on entre déjà dans l'époque d'Escoffier, donc vraiment la fin du 19e, le début du 20e, on va avoir un répertoire des produits de luxe, qui bouge, hein, d'ailleurs. La truffe n'est pas toujours aussi précieuse qu'aujourd'hui. Les gibiers dans leur diversité, les oiseaux, mais les huîtres, les homards, etc., toutes ces choses commencent à être vues comme des signes de grande classe culinaire. Après tout, on aurait pu considérer l'œuf à la coque comme un mets extraordinaire. Peut-être suffirait-il que l'œuf soit extrêmement rare et un œuf parfaitement cuit pourrait émouvoir autant qu'un saumon fumé ou un caviar. Mais je pense qu'à ce moment-là, oui, des produits de prestige, ces produits dits nobles, qui vont avoir une place pendant longtemps prépondérante dans la haute cuisine française, l'associant donc à cette image un peu coûteuse, prestige bourgeois, puissance. Et au cours du XXe siècle, il y aura quand même un mouvement pour valoriser et revaloriser régulièrement des produits plus simples. Ne pas parler que du turbo, mais pouvoir parler du maquereau ou du merlan. Ne pas parler que du foie gras ou que des volatiles les plus rares. Ça sera tout un mouvement, au fond, de l'idée qu'on peut associer la très haute cuisine et le raffinement culinaire et l'art du cuisinier à des produits qui étaient des produits ou qui sont des produits bon marché, peu difficiles d'accès.
Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant ce banquet, ce sera juste après ça.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
C'est si bon par Louis Armstrong dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'invention de la gastronomie et nous en parlons avec Benoît Peters, écrivain et scénariste. Nous sommes également en compagnie de Philippe Mézy, maître de conférences en histoire moderne à l'université de Bordeaux-Montaigne. Alors on poursuit dans l'histoire de l'invention de la gastronomie. On en arrive au début du XXe siècle à l'une des figures majeures que vous évoquiez, Benoît Peters, c'est Auguste Escoffier. Qui est-il? Que nous apporte-t-il? Et en quoi pose-t-il les bases de ce que deviendront les grands chefs cuisiniers à la française du XXe siècle?
Alors Escoffier, c'est un parcours extrêmement long. C'est une aventure, puisque c'est l'ascension de quelqu'un qui naît dans un petit village, dans une famille modeste, et qui va finir premier cuisinier décoré de la Légion d'honneur. On croit parfois que c'est Bocuse, mais ça commence avec Escoffier, et qui nous est connu non seulement par la longueur de son règne, par l'internationalisation, c'est un des premiers qui va vraiment défendre la cuisine française hors des frontières, mais aussi parce qu'il a beaucoup écrit. Mmh. Et ce qu'il a écrit, c'est à la fois des manuels de cuisine, qui sont toujours pratiqués aujourd'hui, qui restent des bibles, hein, le guide culinaire d'Escoffier, mais c'est aussi des souvenirs et des récits qui sont extrêmement savoureux. Je recommande vraiment les souvenirs culinaires d'Escoffier, qui sont un livre de lecture très très amusante. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez Escoffier? D'abord, une expérience militaire. Mmh. Et cette expérience militaire, pendant la guerre de 1870, c'est l'expérience du manque, c'est l'expérience de la faim. Donc, Ça va à la fois focaliser un intérêt pour la cuisine, mais aussi nourrir les officiers avec ce qu'on a. Donc développer un art culinaire à partir de très peu. Ça, c'est une première chose. De l'armée, il va retenir aussi la structure
L'organisation.
Et ça, c'est quelque chose qui, pour le meilleur et pour le pire, a survécu jusqu'à nos jours. On parle de la brigade. Et la brigade, on le sait, elle est très masculine, elle est très hiérarchisée. On a vraiment une descente du chef au sous-chef, et puis au commis, etc. Bon, ça, c'est une structure qui est héritée. L'autre élément, c'est l'association avec César Ritz, et donc le développement d'une cuisine de palace, qui sera aussi la cuisine de paquebot, et donc qui va exister à Paris comme à Londres, comme dans un certain nombre d'autres villes européennes, en Suisse, en Allemagne et ailleurs, quand se développent ces immenses hôtels, ces immenses machines qui se doivent d'avoir une cuisine capable de servir non seulement les clients de l'hôtel, mais des banquets absolument colossaux. Et donc là, il y a toute une méthode Escoffier qui va permettre d'atteindre une sorte d'excellence et qui va être copié, hein, imité. On veut Escoffier à sa cour comme autrefois on voulait Descartes ou Voltaire.
Philippe Mézy, sur cette figure d'Auguste Escoffier qu'on appelait le cuisinier des rois, expliquez-nous un petit peu, voilà, à la suite de Benoît Peters, ce qu'il a institué en matière de style dans la gastronomie française et ensuite dans la gastronomie mondiale.
Alors, il se place vraiment tout à fait dans la continuité qui est déjà initiée depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, hein, de ces Français qui vont porter la cuisine française et contribuer à une sorte de modèle culinaire français, parce que Auguste Escoffier, à travers son manuel culinaire, mais aussi à travers la formation de grand nombre de cuisiniers français et étrangers qui ensuite vont travailler un petit peu partout dans le monde, va contribuer à diffuser des méthodes culinaires qui sont basées effectivement sur l'organisation en brigade. Et en fait, il incarne finalement assez bien ce siècle de l'industrie, parce qu'il y a une décomposition des tâches à l'intérieur de la brigade. Certains vont faire les desserts, certains vont travailler sur le chaud, d'autres sur le froid, d'autres sur les sauces, etc. Donc on a ce qu'on retrouve en termes d'organisation, effectivement, dans la dimension militaire, mais ce qu'on retrouve aussi dans les usines, hein, évidemment, qui se développent à ce moment-là. Et puis, il va aussi porter les innovations techniques liées aux méthodes de conservation, parce que avec Escoffier, c'est aussi dans la seconde moitié du 19e siècle, la période où se développe le froid artificiel, qui permet de transporter plus facilement les denrées, et puis qui intervient aussi au niveau de la préparation des plats. Et puis enfin, comme on l'a dit, c'est le lien avec le développement de l'hôtellerie de luxe, qui va vraiment être le cadre, finalement, c'est plus les palais des princes, c'est cette fois-ci les grands hôtels, et ce personnage proche des puissants va véritablement faire une sorte de normalisation très forte de la cuisine française, hein. Le guide d'Escoffier sert encore dans les écoles hôtelières de référence à la formation des élèves. Donc ça, je dirais, sa prégnance sur la cuisine française dite classique, elle perdure tout au long du XXe siècle et jusqu'à nous.
Benoît Peters, le XIXe, le XXe, ce sont les siècles de l'industrialisation, de la colonisation, de la mondialisation. Ça a des conséquences sur l'approvisionnement en nouveaux types de produits. Quels sont les apports du monde dans les assiettes de ces gastronomes français?
Il me semble, mais Philippe Mézy me démentira peut-être, que dans la première moitié du 20e siècle, on est peut-être plutôt dans les apports régionaux. Mmh. On est dans une cuisine française qui veut s'imposer comme française. Il y aura d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire de la cuisine ce moment d'affirmation d'une fierté nationale, d'une cuisine reine. Hein, les vins de France sont rois, la cuisine de France est la meilleure du monde. On mettra peut-être un peu longtemps à se rendre compte qu'il se passe des choses ailleurs et dans d'autres cultures, avec d'autres produits et peut-être d'autres codes. J'ai l'impression que la vraie ouverture aux produits du monde va se faire plus tard, après, à partir de Bocuse, au moment où les cuisiniers vont alors voyager. Ça, c'est une chose dont j'ai souvent parlé avec le grand chef Michel Guérard, qui est un ami, qui est un merveilleux cuisinier. Il disait, on partait en Chine pour montrer la cuisine française aux Chinois, on revenait en ayant envie d'essayer les techniques et les plats des Chinois. Et ça a été le cas pour beaucoup avec le Japon, bien sûr, plus tard avec un certain nombre d'autres pays dont on ramenait des principes alors qu'on était venu de façon un peu impérialiste pour apprendre aux autres à manger, pour apprendre au monde à manger. Mais j'ai l'impression que c'est un mouvement qui se fait quand les chefs sont devenus suffisamment illustres pour être invité.
Vous parlez de Paul Bocuse et de Michel Guérard, ça tombe bien, on a trouvé une archive de 1971. C'était dans l'émission L'invité du dimanche de Jacques Chancel.
Messieurs, pardonnez-moi de vous déranger. Je voudrais savoir tout d'abord ce que vous allez nous préparer. Paul Bocuse, Michel Guérard.
Eh bien aujourd'hui on va commencer, nous allons vous préparer des poissons, deux poissons, un rouget et un loup qui ont été pêchés dans le golfe de Saint-Tropez cette nuit. Ils sont arrivés tout frais ce matin. On va les faire en croûte, façon Fernand Point, pour rendre hommage à M. Fernand Point, qui pour nous était un grand seigneur de la cuisine.
Est-ce que vous allez donner un nom à ce plat?
Peut-être le loup de l'invité du dimanche.
Mais maintenant, je vous demande une chose qui est importante. Est-ce que ce plat sera mentionné sur vos menus?
Bien sûr.
Et même dans 3 ans, pas seulement dans une semaine.
Il est pour toujours.
Combien de temps vous faut-il pour préparer ce plat?
En principe, à la fin de l'émission, ça doit être fini.
C'est-à-dire 90 minutes?
90 minutes.
Cela suffit?
Amplement.
Est-ce que vous avez une bonne définition de la cuisine?
Je crois qu'on peut l'avoir ici, des produits de qualité.
Michel Guérard? Oui, c'est un peu ça. Et puis, c'est la cuisine, c'est la séduction.
Philippe Mézy, la cuisine, c'est la séduction. Ce sont aussi ces grandes figures de chefs qui émergent en France dans la seconde moitié du XXe siècle, avec en figure de proue Paul Bocuse, Michel Guérard, qu'on entendait également. Quel est le style de ces chefs-là et pourquoi est-ce que, à leur façon, ils vont révolutionner la gastronomie?
Alors il change complètement effectivement la donne, tout simplement parce que le cuisinier sort de sa cuisine. Il faut pas oublier que pendant très longtemps, celui qui dans les restaurants était le plus célèbre, c'était le maître d'hôtel, et le cuisinier était resté dans sa cuisine. Avec cette génération là, on va avoir les cuisiniers qui vont devenir médiatiques, qui vont aller à la rencontre des clients, qui pour certains vont devenir propriétaires de leur établissement, et ça change complètement la donne. Ça change dans le mode de fonctionnement du restaurant, ça change finalement une gastronomie qui est celle plus finalement de créateurs, puisque c'est eux qui sont en cuisine et qui vont façonner les choses. Et on est, comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises, toujours dans ces mouvements de réaction ou de volonté de rupture. On va parler de nouvelle cuisine dans les années 1970, comme on parlait dans les années 1730 déjà aussi de nouvelle cuisine en France. Et là, on l'entendait dans l'extrait que vous évoquiez, on a des cuissons qui vont être plus courtes, qui sont très très importantes, et cette valorisation effectivement du produit qu'il faut mettre en avant, un attachement au goût. Ce n'est plus du tout l'artificialisation qu'on évoquait auparavant, on est vraiment là dans la recherche du goût du produit qui est mis en avant.
Benoît Peters.
Alors il y a une chose qui va apparaître, peut-être moins avec Bocuse qu'avec ses successeurs, c'est le goût de l'invention. Mmh. Parce que pendant longtemps, dans les tables 3 étoiles de France, on retrouve à peu près les mêmes plats. Il y a une série de grands classiques, plus ou moins bien exécutés, qui sont les spécialités. Tout d'un coup va arriver cette idée que chaque cuisinier peut surprendre, innover, créer des associations tout à fait inattendues. Et ça, c'est moins Bocuse qui reste l'héritier de Fernand Point, donc sa grande admiration, qui reste profondément un classique, mais qui va avoir ce talent extraordinaire d'encourager toute une génération de cuisiniers, de son âge ou un peu plus jeune, les frères Troisgros, Alain Chapelle,
Joël Robuchon,
un peu après Robuchon, Roger Verger, les frères Héberlin, enfin tout un petit groupe qui va se soutenir mutuellement, parce que ils sont des innovateurs qui se heurtent à des conservateurs. Mmh. Et donc, ils n'ont pas du tout l'impression d'être rivaux. Au contraire, ils se rendent des services. Michel Guérard me racontait qu'il avait, dans son premier restaurant à Asnières, le Pot-au-Feu, une cuisine absolument minuscule et le dressage était difficile. Il entend que les frères Troisgros, non seulement ont révolutionné l'organisation technique de leur cuisine, mais le service, avec le service à l'assiette, de grandes assiettes. Il va chez les frères Troisgros pour en parler avec eux et il repart avec des piles d'assiettes qu'on lui offre. Donc c'est vous dire que ces gens ne se voyaient pas du tout comme des rivaux, n'étaient pas dans la course aux étoiles ou au toc du Guémillot. Ils trouvent d'ailleurs avec Guémillot une alliance, c'est-à-dire créer un guide sur un discours de rupture et valoriser une nouvelle génération de cuisiniers et peut-être une nouvelle génération de mangeurs. Mmh. Parce qu'il s'agit peut-être à ce moment-là de sortir de la bourgeoisie de l'après-guerre, dont le ventre proéminent était le signe distinctif, montrait sa richesse par sa bedaine. C'est l'époque qui sera caricaturée par la grande bouffe de Ferrari. Et passer à quelque chose où vont entrer des préoccupations diététiques, le retour du légume, les cuissons réduites, le poisson presque nature, enfin quelque chose d'absolument neuf, qui s'incarnera notamment avec La grande cuisine minceur de Michel Gérard.
Philippe Mézy, c'est ça qui se passe au tournant des années 70. C'est intéressant que Benoît Peters évoque la grande bouffe, puisque c'est vraiment un film qui met en scène cette abondance morbide.
L'écœurement du quantitatif.
Voilà. Et est-ce que là, il y a un véritable tournant dans la gastronomie qui s'opère? On passe du roboratif au sain, au mesuré. Expliquez-nous un petit peu ce qui se joue avec cette école de la nouvelle cuisine.
On a en effet un changement qu'on perçoit assez bien et qui a un arrière-plan qui est très important d'avoir à l'esprit. Il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est qu'on arrive dans une société qui devient une société d'abondance. Dans les années 60-70, hein, c'est les 30 Glorieuses, donc la culture de la faim, tout du moins dans les pays occidentaux dont je parlais, eh bien, elle est en recul. Donc on n'est plus obligé de se distinguer par les grandes quantités, par l'abondance. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui change, c'est aussi, on l'évoquait socialement, ces restaurateurs, ces chefs vont s'adresser à une clientèle un petit peu différente qui est l'incarnation de la réussite des 30 Glorieuses, hein, ces capitaines d'industrie, ces cadres supérieurs qui ont un rapport évidemment au corps qui change et il faut apparaître dynamique, donc l'embonpoint devient plutôt rejeté et donc finalement on a une rencontre entre ces innovations, ces créations culinaires, ils se conçoivent vraiment comme des créateurs, et puis finalement l'existence d'une clientèle et d'amateurs sensibles à ce type de cuisine.
Benoît Peters, ça va se traduire aussi dans le service, tout ça.
Je pensais aussi à une traduction politique. C'était un peu ce passage dans les années 70, après le premier choc pétrolier, le passage de la France de Pompidou à la France de Giscard d'Estaing. Vous savez que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a voulu accorder la Légion d'honneur à Bocuse. Ça a été un événement, c'est une Légion d'honneur extrêmement médiatisée, avec un repas à l'Élysée où il reçoit non seulement Bocuse, mais tous les chefs de la nouvelle cuisine qui préparent un repas. Valéry Giscard d'Estaing, c'est Michel Gérard qui me l'a raconté, qui dit aux cuisiniers de l'Élysée, vous feriez bien de vous en inspirer, parce que bon, pour le poisson c'est bien, mais pour le reste c'est trop lourd. Et on sent donc une France qui a envie d'entrer dans une forme de modernité. Et effectivement, c'est le moment où la cuisine ménagère bouge aussi, où l'électroménager se développe, où le surgelé commence à devenir extrêmement présent. Il faut trouver une nouvelle forme de cuisine pour cette génération et peut-être inventer un autre type du plaisir du repas, donc passer d'une cuisine d'abondance. On se souvient des privations de l'immédiat après de la guerre et de l'immédiat après-guerre. Là, on va sortir d'une période de surabondance et prendre soin de son corps, commencer à prendre soin de la nature et donc respecter davantage le produit. On aura évidemment à ce moment-là, par exemple pour le poisson, l'influence de la cuisine japonaise. Il est évident que quand vous découvrez le poisson cru, ce qui se fait assez tard en France, le poisson surcuit et noyé dans la sauce ou sous une croûte vous paraît tout d'un coup massacré. Quand le légume, on se souvient de ces navets, de ces carottes effondrées après des cuissons beaucoup trop longues, tous ces légumes qui finalement avaient le même goût, il est clair que quand on commence à cuire des épinards en les plongeant à peine dans l'eau bouillante, à avoir des petits pois qui sont d'un vert absolument printanier, on mange autrement et par exemple le légume commence sa lente ascension là où il n'était pendant longtemps que garniture et accompagnement. Hein, on vous disait le faisant machin truc, on vous parlait de la sauce ou mais on vous parlait à peine de ce qu'il y avait autour, qui parfois d'ailleurs privilégiait le féculent.
Philippe Mézy, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même on a été un peu chauvin. On a parlé beaucoup de la gastronomie française. C'est que en parallèle, dans ces années 70, avec ces chefs stars là dont on parlait, Paul Bocuse, en figure de proue, il y a une gastronomie mondiale qui se développe et une concurrence qui vient se mettre en place. Expliquez-nous un petit peu comment se développe cette gastronomie mondiale et ce combat des chefs. Alors c'est un combat entre guillemets, mais expliquez-nous un petit peu ce qui se passe à ce moment-là.
Alors on a effectivement des cuisines dans d'autres pays qui s'affirment, mais je dirais c'est pas forcément quelque chose de neuf, mais ça va être porté effectivement par ces figures importantes. Hein. On a la cuisine italienne, la cuisine asiatique aussi qui est mise en avant progressivement dans le contexte qu'on évoquait précédemment. Mais la France reste, il faut jamais l'oublier, quand même toujours présentée comme une référence ou en tout cas un point de repère, c'est-à-dire que pour les cuisiniers d'autres pays, on connaîtra ça aussi en Europe du Nord à la toute fin du XXe siècle. Ils s'inspirent finalement toujours de la cuisine française, quitte à s'en démarquer et à mélanger avec autre chose. Et donc on a toujours des phénomènes finalement de circulation de savoir technique, d'influence multiple, et c'est un phénomène qui s'accentue très clairement dans la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Ces circulations sont de plus en plus importantes et on a toujours des emprunts à la cuisine française qui sert toujours et qui est toujours considérée comme une référence chez les professionnels en particulier.
Benoît Peters.
Il est certain que, par exemple, Ferran Adria, cuisinier d'El Bouli, est nourri d'abord de la nouvelle cuisine française. Mais en même temps, il va s'en détacher pour aller plus loin. Bien sûr, la gastronomie a toujours évolué en même temps que les techniques culinaires, de nouvelles techniques de cuisson, beaucoup plus précises, à basse température, des cuissons en vessie, des cuissons à la vapeur, sous vide. Bon, sous vide a été inventé chez les frères Troisgros. En tout cas, c'est le premier endroit où il a été réellement pratiqué dans la haute cuisine. Mais alors, avec un cuisinier comme Ferran Adria, on passe à un autre esprit. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir une cuisine d'auteur, avec la nouvelle cuisine, là on peut dire qu'on a une cuisine d'artiste.
D'artiste et de savant fou, c'est la cuisine moléculaire.
C'est-à-dire qu'il va y avoir chez lui, une fois la gloire venue, une fois qu'il devient le numéro un mondial avec un classement qui est le classement du 50 best, un classement mondial qui fait grincer les dents un peu partout en France, il va commencer à systématiser son travail. Et donc effectivement avoir à la fois le regard de l'art, en s'inspirant des peintres, par exemple, dans les présentations, et le regard de la science. Il ferme son restaurant 6 mois par an, il le transforme en laboratoire, Thaler, et il va, par exemple, essayer, et il le consigne dans des livres, des préparations méthodiques de tout ce qu'on peut faire avec un produit. Donc, prenons, la carotte, vous allez décliner 12-15 préparations autour de la carotte, y compris des choses qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donnerait si on la laissait presque brûler, si on la réduisait en poudre, enfin, etc. Et de ces procédures méthodiques d'exploration, il retient les plus pertinentes, les associations les plus étonnantes, et donc produit, par exemple, des textures qu'on n'avait jamais eues. Bon, bien sûr, il y aura la question des additifs, qui va être controversée, mais il ne fait au fond, dans un premier temps, qu'une chose, c'est utiliser les ressources de la chimie pour faire de la cuisine. Après tout, qu'est-ce qu'une mayonnaise, qu'est-ce qu'un sabayon, sinon de la chimie? Simplement, là, on a quelqu'un qui le fait absolument méthodiquement et qui, après avoir bouleversé les plats eux-mêmes, va bouleverser l'ordonnancement du repas en s'inspirant de la technique des tapas et en inventant une toute autre organisation du repas où on ne va plus nécessairement du froid vers le chaud, de la mer vers la terre, etc., mais où tout peut se combiner autrement. Et ça, c'est une révolution qui va avoir des échos en Scandinavie, en Grande-Bretagne, au Pérou, un peu partout en Asie, où on va avoir arrivé des chocs culinaires, des associations de produits, des associations de saveurs, des nouvelles formes de cuisson qui vont quand même secouer le monde de la gastronomie. Donc c'est vraiment un moment très très important. Ferran Adria est juste à la frontière française, ce qui lui permettait d'être inclus dans le Goemio et je crois dans le Michelin, parce qu'on allait 10 kilomètres plus loin. Donc il était au milieu des restaurants français et en même temps il faisait une sorte de petit pied de nez aux cuisiniers les mieux établis.
Ce qui est très intéressant, Philippe Mézy, c'est que donc là, on parle de cette figure de Ferran Adria, qui est quand même un alchimiste de la grande cuisine, et qu'en parallèle de ça, alors on va pas forcément, faut pas forcément les opposer, mais on pense à un chef comme Michel Brasse qui restaure, réinvente le gargouillou en allant prendre des petites plantes de saison sur l'Aubrac, et qui une recette qui change tout, bah, en fonction des saisons. Et ça, c'est très intéressant aussi, cette coexistence entre des pratiques qui relèvent du laboratoire et d'autres pratiques qui relèvent plus d'une certaine forme de tradition rurale.
Alors, on est effectivement dans tout ce qui fait la diversité de la gastronomie à l'échelle d'un pays ou à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Et effectivement, Michel Bras à l'Aïeul, on est sur à la fois quelque chose qui relève de la tradition avec l'utilisation de ressources locales et la mise en avant de produits et de choses qui sont peu exploitées comme des herbes sauvages, etc. Mais en même temps associé à des techniques de pointe en termes de cuisson, des techniques culinaires vraiment très 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 novatrices. Donc on est finalement dans les mêmes processus, mais avec voilà des nuances dans l'orientation. Et ce qui est important aussi peut-être de remarquer, c'est que des chefs comme Ferran Adrià ou Michel Bras ont une influence aussi beaucoup plus large que quelques restaurants étoilés, ont une influence très large sur la gastronomie et ont donné notamment à la dimension visuelle des plats aussi quelque chose qui est aujourd'hui très important dans la gastronomie.
Oui, finalement, ils ont, c'est le couronnement de ce qu'on a appelé le design culinaire dans les années 90. Il faut que ce qu'on voit dans l'assiette et ce qu'on mange dans l'assiette soit beau avant d'être bon. Et tout ça, ça se traduit, par exemple, Benoît Peters aussi, dans ses programmes à grand succès, comme Top Chef, par exemple, qui ont d'une certaine façon démocratisé, de façon très conséquente la gastronomie et l'ont élargi à un grand public. Mais ça reste un plaisir des yeux, puisque le public ne peut pas se nourrir de ce qui est préparé. Expliquez-nous un petit peu comment vous interprétez ce type de succès populaire qu'a la gastronomie et qu'a la haute cuisine aujourd'hui en France notamment.
Oui, je pense qu'Instagram et Top Chef sont deux éléments absolument décisifs de la perception culinaire, c'est-à-dire que des gens qui n'auraient jamais pu entrer, s'offrir ces restaurants, hélas pour la plupart très coûteux, voient quelque chose. Mais voir, ce n'est pas manger, ce n'est pas goûter. Et j'ai parfois dans la tête l'image du public qui, avec une pizza tiède sur les genoux, regarde les performances de Top Chef.
Ça a du mal.
Et un regard un peu perplexe sur cette évolution. Bien sûr, ces grandes émissions télévisées ont rapproché la cuisine du sport. Et à ce titre-là, ce sont des compétitions sportives dramatisées, extrêmement réussies. Ça a donné idée peut-être de certains produits, de certaines associations, de certaines présentations auxquelles on ne pensait pas. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est deux choses. C'est la menace qui pèse sur le repas familial, le moment du repas qui disparaît au profit d'une alimentation tout à fait individuelle. Et c'est le grand écart qui se creuse entre ces raffinements culinaires qui se passent un peu partout dans le monde et qui, dans certains pays d'ailleurs, comme au Vietnam, sont tout proches de la cuisine de la rue et qui, dans d'autres pays, comme hélas en France, sont extrêmement éloignés de la cuisine quotidienne. Vous voyez quand même des pratiques de malbouffe chez les jeunes. Et en même temps, une fascination pour une émission comme Top Chef. J'aimerais parfois qu'on apprenne aux gens dans cette émission à cuisiner bien avec peu, à préparer un bon bouillon, à bien assaisonner une salade et pas seulement à rêver de plats inaccessibles.
Espérons que la gastronomie sera démocratique demain en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, Benoît Peters et Philippe Mézy, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.
Pascaline d'Omble Chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédran.
Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier. Une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
Évidemment, on ne pouvait pas finir cette émission sans le morceau Slow Food du groupe Aston Villa qui mettait en musique en 2002 un menu du chef Pierre Gagnaire. Un grand merci à toute l'équipe d'Eureka. À la technique aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain d'Eureka et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Les langoustines, trois préparations de langoustines bretonnes, grillées terre de sienne, en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girolles liées de caroubes, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert.
Chloé ?
Oui ?
Tu viens ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.